Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Radio Canu, 102.2.
Canu Info.
Gloire au chômage.
Bonjour.
Bonsoir.
Et
c'est l'heure du
Canu Info
du mercredi.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir. Il est 19h passé de 3 minutes et c'est l'heure
du Canu Info.
Ce soir, on va parler de quoi ? On va parler de dissolution, mais pas celle que vous pensez.
Ouais. Darmanin menace de démissionner.
Les riches propriétaires tremblent.
Ensuite.
Les profs de SES menacent de faire grève pour le bac. Et CRS SS plus qu'un slogan, des valeurs.
Et ensuite, il y aura la grande librairie de Canu Info.
Oui, un petit conseil de lecture d'un texte qui servira de bonne introduction à une petite leçon de vie et de choses par Enrico Malatesta.
Enrico, pas Enrico.
Oh,
tu confonds avec le chanteur.
Qui n'est pas Enrico Malatesta.
Qui aimait bien Sarkozy.
Enrico Malatesta.
Mais on va commencer par des brèves.
Alors...
C'est toi qui commence.
Tout à fait. Élection. Au débat d'hier soir, Bompard de la France Insoumise évoquait une augmentation du SMIC entre 1400 et 1600 euros. Pourquoi pas l'augmenter à 3000 euros, lançait alors Gabriel Attal. Ce à quoi Jordan Bardella a renchéri en disant « au risque de mettre en difficulté une grande partie des patrons ». Est-ce que par hasard, la Macronie et le RN ne feraient pas le jeu des patrons ?
On dit donc que c'est aventureux comme hypothèse.
Élection deuxième. Après François Hollande ou même Lionel Jospin, c'est au tour de Dominique Strauss-Kahn d'appeler à faire barrage contre l'extrême droite, quitte à voter LFI en se bouchant le nez. Ce qui fit dire à la ministre Olivia Grégoire, qui ne manque pas de clairvoyance, je cite, « C'est Walking Dead, cette campagne.
» T'en vois que t'as pas eu le temps de préparer une chronique, toi.
Léna Mafouf, influenceuse plus connue sous le nom de Léna Situation, a pris position en fin de semaine dernière contre le Rassemblement National. Mais certains internautes ont mis en doute ses convictions. Hier, l'un d'entre eux lui a demandé combien elle avait été payée pour afficher ses positions anti-RN. Voilà sa réponse, brève mais efficace. 0 euros, j'emmerde le Rassemblement National gratuitement.
Et pour finir, nous allons pouvoir nous baigner dans le Rhône, avant les Parisiens dans la Seine. Fin de la brève.
Je faisais une transition, je me suis dit...
Ah ouais, ok.
Désolé.
Oui, c'est à moi. Alors, que soient maudits ceux qui réclament des dissolutions. Si de prime abord, on peut se réjouir que la dissolution des locaux fascistes à Lyon et du groupuscule Le Gude à Paris ait eu lieu, il paraît toujours assez stratégiquement vraiment pas malin que ces dissolutions, fermetures soient réclamées par des partis, groupes ou collectifs d'extrême gauche ou libertaires. Que les groupes et locaux fascistes soient harcelés sans répit de toutes les manières est une nécessité, mais aller réclamer à un gouvernement de droite extrême ce genre de dissolution paraît plutôt sacrément dangereux pour nos organisations à la veille de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, qui est, ça me paraît, carrément irresponsable. Le gouvernement de Macron a montré sa volonté de dissoudre dans un en même temps revendiqué avec la tentative des dissolutions des soulèvements de la terre de deux associations de soutien à la Palestine et celle actée du groupe antifasciste de la GAL d'un côté et des dissolutions de groupuscules néo-nazis de l'autre. Et si Darmanin a fait semblant de jouer aux équilibristes dans sa volonté de dissoudre, il a fait voler en éclats les verrous autour de cette procédure, offrant un boulevard si un gouvernement d'extrême droite arrive aux commandes, cette dernière option n'étant plus tout à fait un risque lointain. Je pose mon billet sur la table que ça va dissoudre à tout va, mais seulement de notre côté.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Info. Là, et on parle encore de Darmanin.
Et on parle encore de Darmanin, dites donc. Ouais, parce que Darmanin, il a regardé l'électorat droit dans les yeux. Il a dit que si son camp, donc les macronistes, si son camp n'est pas vainqueur après le second tour des législatives, bon, s'il remporte pas les législatives, lui, Darmanin, il va démissionner le soir même du deuxième tour.
Punaise.
Mais il avait déjà dit qu'il partait. C'est un relou là. Non, c'est là, vraiment le.
Cette fois-là, il n'y a pas de. Tu vois, rien là. Il n'en a rien à péter maintenant. Si les Français ne lui font plus confiance, il se casse.
Mais il avait dit qu'il se cassait quoi qu'il arrive. C'est vraiment genre. Il continue à nous. On va jamais s'en débarrasser.
De toute façon, ça revient au même parce que c'est pas comme si on se faisait des illusions sur les chances des macronistes de remporter les législatives. Alors on peut quand même se demander pourquoi il a dit ça. Est-ce que c'est il a voulu nous motiver absolument pour aller voter n'importe quoi sauf Macron? Ou bien plutôt, est-ce qu'il n'y aurait pas de sa part une petite vilainie qui pourrait être basée sur le fait qu'en vrai, il est incapable de gérer un gros truc comme par exemple la sécurité des Jeux Olympiques? Parce que, alors déjà, on se souvient que quand il avait essayé d'organiser la sécurité d'un simple match de foot contre les Anglais, ça s'était terminé par des supporters anglais qui avaient été d'abord raquettés par les bad boys de la Seine-Saint-Denis, et direct après s'être fait raqueter, il s'était fait assommer par les flics.
Compressé sur des barrières.
Compressé sur des barrières pour une catastrophe diplomatique qui plus est, puisque donc c'était des Anglais. Alors là, voilà. Et ben là, avant de partir, il dit à qui veut l'entendre que tout le monde le sait. Il a tout super bien préparé. L'essentiel, c'est de dire tout le monde le sait. Hein, comme ça, tout le monde se dit ah ouais, bah si les autres le savent, ça doit être vrai. Et il dit donc parallèlement qu'il va partir, vu que personne se fait donc d'illusions sur les chances de son camp pour pas perdre les élections. Ce qui lui permet donc de partir comme un prince. Moi, les Français ne nous font plus confiance, je m'en vais. Alors que peut-être ils me feraient confiance, bien sûr. Et les catastrophes qui manqueront pas d'arriver après son départ pendant les JO. Les touristes shootés par les flics pour refus d'obtempérer. Une grand-mère américaine qui sera tuée dans des règlements de compte sur de réseaux de trafic de drogue. Un japonais qu'on retrouvera tout nu sans sa Rolex dans les quartiers nord de Marseille, puis tiré au LBD par des flics en état de légitime défense. Tout ça, au moins, ça ne sera pas sa faute.
Pardon.
Canu Info.
Ah, c'est la panique sur les marchés immobiliers, sur les marchés de l'immobilier. C'est comme si... Pardon. Ah oui, alors si vous êtes, pardon, lecteur et lectrice du Figaro et que vous êtes sur le point d'acheter un bien immobilier, eh ben je suis sûr que vous vous êtes posé la question de... Que faire si la gauche, sous l'incarnation du nouveau Front populaire, gagne? Eh bien, sachez que la réponse est dans le supplément Le Figaro Immobilier. Ne jugez pas mes lectures, s'il vous plaît. Certains acheteurs et acheteuses souhaitent insérer une clause annulant la vente en cas de victoire du nouveau Front populaire. La réclamation émane d'un acheteur lyonnais. On a les cons qu'on mérite. Le journal se pose la question de la légalité de la clause sans vraiment y répondre, parce qu'après tout, c'est vrai qu'on s'en fout un peu. Mais juste dit-il dans ses lignes, la panique chez les acheteurs, comme en 1981, nous précise le notaire Maître Bretagne, situé à Givors. Angoisse confirmée par Franck Silbert, directeur associé de Paris West Sotheby's Real, qui dit, je cite, « L'Italie a la cote en ce moment auprès des Français qui veulent la sécurité ». Et ben voilà, le message est clair. En même temps, faut les comprendre, c'est stressant de s'imaginer que pendant ta partie de golf, tu peux te faire squatter ton logement et que les lois mises en place par un gouvernement pro-squat protègent les occupants et occupantes qui auront même le droit de vider ta cave à vin. Allez, un peu plus sérieux, même si la gauche arrive au pouvoir, elle fera ce qu'elle a toujours fait, protéger vos petits intérêts en écrasant nos acquis. Elle frappera juste un tout petit peu moins fort que les autres rasés.
Et du coup, on va écouter de la musique. Est-ce que vous voulez présenter votre morceau, monsieur ?
Non, bah, on peut dire que c'est Rossé, c'est que je chante la France, et que c'est un morceau qui me semblait adapté à la situation qu'on vit. Ça parle ?
J'ai la Marseillaise sifflée, le drapeau sous les semelles. J'ai le regard crispé sur ce pays et ses querelles. Le regard débridé, le pelage blanchi. Je bégaye presque sans plus d'accent, les mêmes problèmes qu'il y a des décennies. Pays des droits de l'homme, alors vivent les femmes et sauvages. Tués par des hommes, même tuant leur propre image. Mais les chansons et les danses de résistance, dans leurs insultantes danses, embellissent et chantent la France. Mon père a combattu Vichy et collaboration. Expert aux faux papiers, sauve les victimes de trahison. Agir et résister quand la patrie perd la raison, il offre l'humanité sans prendre l'accord du président. La clandestinité à cause de ses appartenances, de ses combats menés pour mettre justice dans la balance. La jeunesse, la santé sont cloîtrés dans la résistance. Pas français, pas de récompense, pas de problème, il sauve la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit, chante, chante, chante la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit, chante, chante, chante la France. La pensée de négritude aux écrits d'Aimé Césaire. La langue de Gatep Yassine dépassant celle de Molière. Installant dans les chaumières des mots révolutionnaires. Enrichissant une langue chère à nombre d'années de la terre. La pensée d'Olympe de Gouges dans une lutte sans récompense. Tous ces êtres dont la réplique remplace un long silence. Tous ces esprits dont la fronde a embelli l'existence. Leur renommée planétaire aura servi à la France. Nos pays lointains sont loin, mais fiers comme une mère. Patrie voyant son enfant parti, mais qui jamais ne l'oublie. Qui défie l'intégration si d'amnésie il s'agit. Rentre dans la patrie si c'est pour en être grandi. Moi j'ai des pays cassés, ce ne sont pas des prothèses. Liés par parenté, je ne peux les mettre entre parenthèses. Et personne n'a à me dire le pied sur lequel je danse. Qu'elle m'accepte comme être multiple et je chanterai la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit, chante, chante, chante la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit, chante, chante, chante la France. Pays jalousé par tant d'autres grâce à sa riche histoire. Mais à user le passé, on récolte respect trop mince. Alors on duplique la grande Amérique et sa victoire. Et à force de copier, on ne ressemble qu'à sa province. Et les ghettos s'agrandissent, s'appauvrissent, c'est romantique. Personne n'avait besoin de ça, la pauvreté à outrance. Quelle différence entre nous et le bougre outre-Atlantique. Allez savoir pourquoi c'est plus dur de chanter la France. Je n'irai pas en guerre, je n'ai pas de terre comme fierté. Je n'ai pas de terroir mais des hectares de citoyenneté. Qui peuvent aussi se défendre à main armée. À force d'être intégré, on finira oncle incarné. Quitte à chanter quelque chose, je chantonne l'humanité. Tout en demandant à ce pays d'admettre que telle est sa chance. Et quand les portes restent closes, il s'agit de s'impliquer. Car c'est de ces ecchymoses que peut se construire la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit, chante, chante, chante la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit, chante, chante, chante la France.
Moi, bon, une petite histoire d'école, parce que pour illustrer le fait que décidément les macronistes, même en ces temps où ils voudraient avoir l'air sympa, c'est dans leur caractère, il n'y a pas moyen de les refaire. Alors, les profs de SES, les SES, donc sciences économiques et sociales, ont déposé un préavis de grève juste pour la période du bac. Ils menacent de ne pas aller faire passer le grand oral. Leur souci à ces profs, c'est que le programme de terminale est bien trop chargé, que c'est impossible d'étudier tous les chapitres et que les lycéennes et tous les chapitres, pardon, que les lycéennes et les lycéens doivent connaître pour passer le bac, quoi. Donc, alors selon lesquels il y en a, ils disent aux élèves, bon ben, rentrez chez vous, regardez le chapitre 3, le chapitre 4 et le chapitre 5, démerdez-vous sans moi. Il y en a d'autres, ils font des polycopiés, ils disent allez, lisez les polycopiés. Enfin bref, ils n'y arrivent pas. Il faut dire que le programme avait été bien augmenté par Blanquer quand il était ministre de l'Éducation en 2019, bien augmenté mais aussi un brin redirigé, on pourrait dire. Voilà ce qu'en dit un prof de SES dans, figurez-vous, dans Télérama. Je lis de ces trucs, moi. Il nous dit que cette réécriture avait non seulement alourdi les programmes, mais elle avait aussi entraîné un manque de pluralisme dans les sujets, dans le traitement des sujets. L'économie dominante est clairement mise en valeur, ce qui laisse assez peu de place au débat, parce que pour les gens qui font de l'éco, là, il y a un peu l'économie libérale qu'on appelle dominante ou orthodoxe ou je sais pas quoi, et face à laquelle il y a des économistes qui sont pas là-dedans, mais qui du coup dans le programme fait par Blanquer, ces autres économistes sont vraiment juste complètement dégagés, quoi, ils n'existent pas. Je continue la citation du prof. On demande de plus en plus aux élèves d'apprendre par cœur des mécanismes qu'ils doivent recracher lors des épreuves du baccalauréat. À propos des limites environnementales de la croissance économique, par exemple, on ne leur présente plus qu'une seule solution, l'innovation technologique. Bon voilà, ça c'est le programme par Blanquer. Mais bref, la revendication immédiate des profs, la revendication de tout de suite, c'était surtout en termes de volume du programme. Alors, ma foi, le ministre de l'Éducation les a entendus. Et il a bien voulu supprimer le ministère de l'Éducation. Pardon, je ne sais pas du tout si la ministre est au courant ou si elle a juste filé ça à des sous-fifres. Mais en tout cas, le ministère a bien voulu supprimer 3 chapitres. Bon, bah bizarrement, les profs de SES sont toujours pas contents et contentes. Il faut dire que ces 3 chapitres... il faut dire que dans ce qui reste, pardon, il reste bien toujours les 3 chapitres qui, eux, étaient consacrés à chanter la gloire du fonctionnement du marché, avec un M majuscule. Quant aux chapitres qui ont été supprimés, c'est quoi ? Eh ben, c'est le chapitre sur les crises financières, le chapitre sur l'inégalité des chances à l'école et le chapitre sur le rôle des pouvoirs publics dans la lutte contre les inégalités. Voilà, ça c'est ce qui a dégagé. Comme je le disais en intro, quand on est macroniste, on se refait pas.
Canu Info.
Alors, c'est le canard enchaîné qui a révélé l'histoire. Une unité de CRS, je vais y arriver, la CRS-4, est accusée d'avoir diffusé sur sa boucle WhatsApp de longs échanges racistes et antisémites. Pour illustrer l'article, 2 photomontages piqués sur le groupe de discussion, l'un montrant Hitler sortant de l'Elysée avec en dessous une citation, je cite, « Sortons du nucléaire et repassons au gaz ». Et une autre avec une photo d'une embarcation en train de couler avec des migrants à son bord, complétée du logo détourné de la célèbre marque de thon, renommée pour l'occasion Petit Chavire, avec comme sous-titre, avec de vrais morceaux de migrants dedans. Le commandant, elle, de cette unité, semble-t-il un peu moins facho que les autres, signale à sa hiérarchie les comportements fascistes de sa brigade, et particulièrement de son adjoint, le capitaine LB, amoureux du Troisième Reich et de Jean-Marie Le Pen. Ce sont des membres de ce groupe, alors chargés de la sécurité d'un rassemblement d'Éric Zemmour, qui ont pris la pause avec Marion Maréchal Le Pen en, pendant la dernière campagne présidentielle. L'IGPN a bien ouvert une enquête, mais elle ne vise pas la boucle en question, ni ses membres, mais plutôt le commandant qui a balancé ses collègues. Parce que quand même, avant tout, l'IGPN assure la cohésion de groupe. Qui, résultat, a été mis au placard. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le fameux capitaine néo-nazi LB, donc à ne pas confondre avec le commandant L, j'ai eu du mal pendant l'article, mais comme ils ont que des pseudos, voilà. Donc lui, c'est bien le capitaine fan du Troisième Reich et de Jean-Marie Le Pen, qui a lui aussi été écarté de l'unité, mais qui a eu une promotion.
Canu Info. Du mercredi.
Eh ben moi, c'est déjà l'heure d'un petit conseil de lecture. C'est un texte qu'on trouve facilement sur plein de sites de camarades. Séjour, comme qu'on le trouve entre autres sur Rebellion. Un texte qui s'appelle Bulletin de vote, lutte des classes et écocide. Alors c'est vrai que moi, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, depuis qu'on sait qu'il va y avoir des nouvelles élections qui pourraient éventuellement donner une majorité au RN, depuis aussi qu'on sait que les partis de gauche du NPA à François Hollande se sont mis ensemble pour essayer de ne pas laisser les fachos tout gagner et nous ont sorti un programme qui a l'air super bien. Tous les textes qui m'étaient passés sous les yeux sur des sites amis me semblaient alors soit naïvement émerveillés par le programme du nouveau Front Populaire, soit bêtement radicaux. D'un côté, enfin un programme vraiment de gauche, c'est le lendemain qui chante, l'émancipation de tout et de toutes par les urnes et par la gentillesse des gens qu'on va élire, d'un côté, soit d'un autre côté, le vote, c'est la bourgeoisie qui veut niquer la révolution, position, cette dernière qui est généralement tenue par des gens qui font pas partie des minorités qui vont s'en prendre immédiatement plein la gueule en cas de victoire des fachos. Et qui repose sur l'idée que s'il n'y a pas le vote, il y a la révolution. Idée qui semble, révolution qui semble là tout de suite un peu, enfin bon. Et ben voilà, je viens enfin de lire un texte que j'ai trouvé hyper bien, qui garde autant que faire se peut un horizon révolutionnaire, mais sans penser que la révolution est de toute façon, il suffirait de pas aller voter pour qu'on y arrive. Et surtout pas voter pour le nouveau Front Populaire, ce qui serait la pire des postures anti-révolutionnaires. Un texte qui fait la part des choses entre les promesses et les futures trahisons, et qui prend le bulletin de vote pour ce qu'il est, c'est-à-dire pas grand-chose la plupart du temps, mais parfois utile, surtout pour tenter d'éviter un scénario vraiment de cauchemar. Je vais vous faire une petite citation de ce texte avant de continuer à résumer la suite. À un moment, ça dit « Il n'y a pas de différence fondamentale dans l'exercice normal du pouvoir entre un parti de droite et un parti de gauche, puisque le rôle de l'État est bien d'être un outil au service de la classe dominante. » Et dans le cadre d'un pays impérialiste occidental, d'être un instrument de la suprématie blanche. C'est bien là le sens de la citation de Brecht, « Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution par temps de crise. » Pourtant, cette bascule quantitative fait toute la différence pour celles et ceux qui seront demain expulsés, enfermés ou assassinés si l'extrême droite s'empare du pouvoir. Voilà un peu le ton de ce texte qui est tout long un peu comme ça, là, à voir un peu les différents côtés de cette histoire de vote. Alors la personne anonyme hein, qui écrit le texte explique avec des arguments que moi j'ai trouvé assez convaincants pourquoi est-ce qu'on peut pas du tout être sûr que le RN, s'ils arrivent au pouvoir, se la joueront gentils entre guillemets, façon Giorgia Meloni. Mais Giorgia Meloni qui, en tout cas dans sa pratique du pouvoir, n'est finalement qu'une sorte de macroniste un peu radical, un peu plus raciste, pas mal plus réac sur des histoires de sociétales, comme on dit là, c'est-à-dire en gros les LGBT, l'avortement et ce genre de thèmes, mais finalement quand même une sorte de macroniste quoi, et qui nous donne des éléments qui pourraient, alors juste qui pourraient hein, parce que c'est pas du tout quelqu'un qui va affirmer ça va se passer comme ça, ça va pas se passer comme ça, mais il trouve quand même des éléments qui pourraient pousser et permettre à Bardella Le Pen de s'orienter vers un régime sacrément plus brutal que ce que fait Meloni. On trouve aussi dans ce texte une comparaison historique avec le Front Populaire original, celui de 1936, et en faisant ça, il évoque les avancées sociales qu'il y avait eu à l'époque, genre les congés payés, tout ce qu'on a gagné à ce moment-là, mais en soulignant bien que ces avancées sociales ont été obtenues en quelque sorte malgré le gouvernement qui a été élu en 1936, ou en tout cas sous la pression du prolétariat, qui s'est pas contenté de voter, qui allait voter, hein, mais aussitôt après la victoire électorale, les gens se sont mis massivement en grève. Enfin, le texte nous rappelle que, et là, ouvrez à nouveau les guillemets, c'est à nouveau une citation du texte, « Il n'y a pas d'autre monde possible sans monde. L'écocide en cours pose un problème d'urgence qui fait fi de toute position de principe. » Et donc voilà, tout ça pour dire que lui, il trouve que ça vaut sans doute le coup de voter contre les fachos et les macronistes pour des raisons d'urgence climatique, parce que pas parce que si c'est pas eux, les autres feront des miracles, encore une fois, mais parce que le RN serait quand même une sacrée pire catastrophe sur ce sujet-là aussi. Et ce sujet-là, finalement, est quand même la condition d'existence de tous les autres sujets. pardon, pendant la virgule. Pendant la virgule, je voulais répéter le titre du texte qu'on trouve partout sur Internet. Il s'appelle Bulletin de vote, Bulletin de vote, lutte des classes et écocide.
Canu Info.
Et on va faire un tour du côté du nord de la France. Je l'ai pas pris. Eh ben c'est pas grave. C'est pas joli. L'ambiance anti-migrant se décomplexe. Donc le nord de la France, gros bastion de fachos. Les assos d'aide aux migrants alertent sur les actes décomplexés à l'encontre des exilés. À Dunkerque, par exemple, une cuve d'eau potable a été contaminée par une substance rendant l'eau bleue et impropre à la consommation. Un récipient trouvé à côté est en cours d'examen pour savoir de quoi il s'agissait exactement. À Calais, des personnes exilées témoignent auprès de Secours Catholique avoir reçu de l'eau de Javel alors qu'ils attendaient le bus le soir de la dissolution. Les locaux de ce même secours catholique ont été caillassés ainsi que les personnes qui se trouvaient sur le trottoir. Et toujours à Calais, un ancien squat qui abritait des exilés a été recouvert de tags, dont un écrit en noir sur un mur blanc, plutôt explicite: Leave or burn, partez ou brûlez. Plusieurs membres de l'auberge des migrants, du secours catholique d'Utopia 56 et de l'association Salam notent une augmentation du nombre de ces agressions. Pour Charlotte, Quantes, coordinatrice d'Utopia 56, je la cite: on craignait l'amplification de ce phénomène avec le score du RN, il n'a pas fallu plus d'une semaine avant que des actes hostiles arrivent, et ça c'est hyper inquiétant, on craignait des menaces, on est face à des passages à l'acte. De son côté, il y a Pierre Roch de l'association de l'auberge des migrants qui lui dit que depuis deux semaines, donc, nous notons qu'il y a des incidents et nous pensons que ces incidents sont liés à des électeurs du RN, des électeurs qui estiment avoir gagné par avance. Ce serait bizarre de ne pas faire le lien avec les élections législatives, non. Voilà pour l'ambiance du pays.
Et pour rester dans l'ambiance du pays, il y a un chauffeur de bus à Thiers. Pour moi, c'est le Val-de-Marne, tout ça, c'est le Nord. Peut-être que je me trompe. Mais du coup, pour rester dans le Nord, un chauffeur de bus qui a été voir un type, donc c'est un bus scolaire, qui a été voir un type qui était garé sur la place du bus scolaire, qui lui a dit monsieur, s'il vous plaît, il faut que je gare mon bus scolaire sur la place du bus scolaire. Et le type a commencé à l'insulter avec des propos racistes. J'en ai marre des gens comme vous, le B-word et le R-word. Moi, je vote RN, je vais te tuer, je vais te massacrer, blablabla. Et il a démarré à sa voiture et a foutu un coup de voiture dans les jambes du dit chauffeur, qui a priori a été admis à l'hôpital, mais sans... Enfin, en tout cas, ça parle pas de pronostic particulier, donc j'imagine que ça devait pas être très, très grave, mais ça devait pas être très rigolo pour lui quand même.
Canu Info. Du mercredi.
Après toutes ces horreurs dont vous venez de parler et qui peuvent donner un aperçu de ce qui pourrait se passer si les salauds gagnent aux élections, et du coup, effectivement, ça pourrait peut-être être utile de voter. Mais en tout cas, moi, je tenais quand même à rappeler, à faire une petite caution anarchiste dans ce Canu Info, et reparler des livres de papy et mamie un petit peu, et rappeler que ce sera pas que par le vote que tout se passera. Donc, faire des petites citations. J'avais deux petites citations de Malatesta qui parlent des socialistes au moment où ceux-ci essayaient de contrer le pouvoir fasciste de Mussolini par les urnes. Et du coup, je me disais que si on parlait des socialistes maintenant, du Front Populaire, comme lui, il parlait des socialistes à l'époque, ça marchait pas mal. Voilà. Alors, du coup, je commence. Ceux du Front... des socialistes, mais là, je vais dire ceux du Front Populaire, espèrent maintenant aller au gouvernement. Et ils y auront naturellement des postes plus ou moins subalternes si la bourgeoisie a besoin d'eux pour essayer d'arrêter une marée populaire qui risquerait de déferler. Et s'ils y vont, ils essaieront de faire passer un système financier moins malhonnête et moins stupide, et un système judiciaire et policier moins meurtrier, du moins nous voulons le croire. Ils pourront faire du bon travail dans l'intérêt de la tranquillité publique et de la conversation et de la conservation sociale. Ils pourront être de bons administrateurs et peut-être des libéraux, mais pas des socialistes. Deuxième petite, et après j'arrête. Comme les socialistes au pouvoir ne pourraient pas réellement vaincre le fascisme parce qu'on ne le permettrait pas, et comme ils ne pourraient pas et ne voudraient pas armer les masses et laisser se déchaîner la révolution,
Il rappellerait le fascisme à la légalité, moitié avec la carotte, moitié avec le bâton. Il s'efforcerait, par des mesures plus ou moins illusoires, d'obtenir que les masses se tiennent tranquilles, et il remplirait le rôle qui leur aurait été assigné et qu'ils auraient accepté, sauver les institutions. Face à cette situation, que doivent faire les vrais socialistes, les anarchistes, les républicains, tous ceux qui sont sincèrement opposés aux institutions ? Rien de nouveau. Continuer, intensifier leur travail de propagande, d'organisation, de préparation, et de voir dans les socialistes qui vont au pouvoir des serviteurs comme tous les autres de la monarchie et de la bourgeoisie, en gros, leurs ennemis et les ennemis des travailleurs.
Et tant qu'on est dans les conseils de lecture, il y a aussi sur lundi matin, vous pouvez trouver un article qui s'appelle « L'antifascisme peut-il casser des briques ?» de Alain Brossa, et le sous-titre c'est « Il n'y a rien à attendre des rabibochages et rafistolages des appareils de la politique institutionnelle dans la perspective de la lutte contre le fascisme ». Et voilà, bah, c'est pareil, c'est un peu un article qui articule un peu comme le tien là sur entre voter, pas voter et
moi, je trouve qu'il est tellement du côté de pas voter.
Tu vois, c'est marrant parce qu'en le lisant, je me suis demandé si quand même lui, il allait pas voter en disant mais il faut quand même. Enfin, en tout cas, ce qui est important, moi je trouve, peu au-delà de ça, parce que de toute façon les gens vont vraiment faire comme ils veulent, mais c'est vraiment de dire qu'en fait rien ne peut se gagner juste par voter ou pas voter, mais ça, la lutte, elle se passera vraiment dans la rue et au quotidien, et je trouve que c'est quand même ça le plus important avant tout, quoi.
Et en parlant de ça, ça tombe très bien. Sans faire un agenda, je vais parler de ce qui va se passer demain. Donc demain, peu après l'anniversaire de la mort de Naël, ce jeune qui avait été tué par la police, on a tous vu la vidéo, un flic qui lui a tiré dans la tête alors qu'il était à côté de la fenêtre ouverte de la voiture. Il y aura un rassemblement, du coup, qui est nommé parce que c'est organisé par, entre autres, par des gens qui ont eu des proches assassinés par la police. Donc un rassemblement en mémoire à nos frères, sœurs, enfants assassinés par l'État et sa police raciste. Et ce sera demain, le 27 juin, à 18h, à la place Guichard. Et ce rassemblement sera suivi d'une soirée contre le racisme d'État, donc très actuel, en mémoire de Naël, Idir et tous les autres. Et ça aura lieu à l'annexe de l'ECG, à partir de 19h, située au 27 rue Salomon-Reynac, dans le 7e. Et au programme de cette soirée, on aura un barbecue, des projections, une cantine, des discussions, des affiches et des prints à prix libre. Il est important de préciser que l'argent récolté lors de cette soirée sera versé à l'aide aux prisonniers et prisonnières victimes de la répression coloniale en Kanaky et à l'association IDIR Espoir et Solidarité.
Tiens, on peut se dire que dans la rubrique agenda, parce que il me semble qu'on a fini ce Canu Info un peu tôt, c'est-à-dire que les informations sont un peu saturées de ce à quoi vous pouvez imaginer en ce moment. Mais si vous avez quand même un peu l'envie de vous changer les idées, d'aller faire la fête, dimanche 30 juin, donc c'est-à-dire ce dimanche, il y a le collectif Solidarité QSEC qui t'invite à venir fêter l'été, de 14h30 à 22h. Et c'est à l'illégalité, au programme Tombola, Gratiferia, Initiation au Crump, pièce de théâtre sur bure, linogravure sur t-shirt, bière, pizza, crêpes, soft sont au rendez-vous. Voilà, donc c'est organisé par un collectif d'habitants et d'habitantes de Cusset et de ses alentours. Et l'article rappelle que l'illégalité, c'est aussi un lieu de soutien aux luttes LGBTQIA+, anticoloniales, contre les prisons et les centres de rétention, et pour un droit au logement pour tous et toutes. Bref, si vous avez envie d'aller faire la fête, ça se passe à l'illégalité. C'est au 6 rue de l'Égalité à Villeurbanne, dimanche de 14h30 à 22h.
Eh ben, merci. À dimanche soir.
Ouais.
Pas à la radio, mais peut-être qu'on
sur
se
retrouvera
quelque part.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Rally round the family, pockets full of shell. Rally round the family.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.